Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Guy Bruy.
Recevant aujourd'hui Monique Chemillier-Gendreau, juriste spécialiste de droit international, universitaire, engagée également dans de nombreuses causes et qui, je ne regarde l'oublier, reçut en 2002 le prix de l'Union rationaliste. C'est la lecture de son dernier livre, paru en 2013, De la guerre à la communauté universelle entre droit et politique, qui nous a donné le désir de l'inviter. Ce livre, dites-vous, aux premières lignes, est né d'un malaise. Et ce malaise a été très activé sans doute par le constat que les violences à travers le monde sont multiples et qu'il y avait une grande difficulté à les traiter, c'est-à-dire que les États n'utilisent que la répression. Et à votre sens, cette répression non seulement est inefficace, mais encore elle conduit à ce que vous nommez un affaissement de la conscience politique.
Oui, je n'ignore pas bien sûr que la marche du monde est quelque chose de dialectique. Quand nous observons l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui, il y a un certain nombre de secteurs qui sont en progrès. Il y a des choses qui sont positives. Il y a des luttes qui portent leurs fruits. Et puis, il y a malheureusement à mes yeux des versants négatifs plus forts, mais surtout des versants négatifs qui sont porteurs d'une négativité plus grande dans l'avenir, que ce soit dans le domaine de l'environnement, dans les domaines sanitaires, dans le domaine de certaines technologies et surtout dans le domaine militaire. Et alors ce que j'ai constaté à enseigner le droit public, mais surtout le droit international pendant de très nombreuses années, puis surtout à aller aussi sur le terrain à travers quelques dossiers de conflits contemporains, ce que je constate, c'est que l'État ne joue pas le rôle de régulateur de la violence qu'on pourrait attendre de lui. Max Weber disait le monopole de la violence légitime, mais aujourd'hui, les États, dans la plupart des cas, ne sont pas capables d'assumer le bonheur social et surtout ne représentent pas des communautés politiques suffisamment soudées pour arriver à réguler la violence ou à la faire régresser. Car mon hypothèse de travail, c'est que c'est le sentiment d'appartenir à une communauté politique qui aide les sociétés à dominer la violence, qui est une composante de l'humanité. Et donc, je me suis penchée sur ce phénomène-là, c'est-à-dire le phénomène du rôle de l'État, pour constater que finalement, les pouvoirs d'État, ce qui reste de pouvoir d'État, les États n'ont plus le pouvoir de donner du bonheur social à leur peuple. Ils gardent le pouvoir de les réprimer, en faisant des politiques qui sont dictées d'ailleurs. Et ces politiques de répression peuvent quelquefois aller très loin. Et du coup, nous assistons à une militarisation du monde. Quand je dis une militarisation du monde, c'est à la fois une militarisation des économies. Tous les États fabriquent des armes et les personnels politiques sont devenus des marchands d'armes avant tout. Il y a une militarisation des économies, mais il y a une militarisation des polices, il y a une militarisation des esprits. Et finalement, le monde entier est tourné vers la préparation de violences encore plus grandes. Je me suis donc penchée sur ce phénomène pour voir comment on pourrait projeter quelque chose d'autre.
Oui, à partir de ça, vous vous livrez en effet à une critique de l'État qu'il faut préciser parce que ce n'est pas l'État en général. Et vous souhaitez d'ailleurs vous distinguer des libertariens américains. Ça, je pense que vous pourriez en dire deux mots parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est très connu.
Oui. Si vous voulez, il y a un courant aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis, il y a des échos de ce courant dans d'autres pays, de gens qui veulent détruire l'État, c'est-à-dire qui veulent le marché. Ce sont les partisans du libéralisme à son point maximal, dans lequel il n'y a plus que l'organisation spontanée des marchés et on n'a pas besoin d'État, on n'en veut pas, il est une gêne, il est quelque chose à quoi il faut renoncer. Alors évidemment, je savais l'écueil en me lançant dans la critique que j'ai faite de l'État souverain. Je savais où était l'écueil. Et là, c'est là qu'il faut préciser les choses. On dit l'État, et beaucoup de gens, après avoir lu mon livre ou d'autres articles que j'ai pu écrire, me disent « Ah, mais vous êtes contre l'État ». Non, pas du tout. Je suis contre la souveraineté. Entendons-nous bien. Les mots ont été accouplés de telle manière que État et souveraineté aujourd'hui sont pratiquement unis dans le même concept. Il y a toutes sortes de formes de communautés politiques, d'associations politiques. Moi, je préfère l'expression association politique d'hommes libres plutôt que communauté politique qui renvoie à une petite connotation donc communautaire qui me gêne. L'association politique des hommes libres, c'est ceux qui sont là et qui décident ensemble, de tracer un destin commun ou de répondre à des défis communs. Alors, ces communautés politiques, il y en a de toutes sortes, il y en a toujours eu dans l'histoire. Il y a des communautés municipales, il y a des communautés régionales, il y a les États qui sont des communautés nationales, il y a des communautés continentales comme est l'Europe, et il y a la communauté mondiale. Le problème est que depuis la Renaissance, lorsqu'a éclaté le Saint-Empire romano-germanique, les princes ont capté la souveraineté qui était celle de l'Empire, chacun à son profit, chaque prince est empereur en son royaume, et pendant des siècles, cette souveraineté a été au profit du prince. Les peuples étaient absents de cette phase de l'histoire, ou en tout cas, si vous voulez se faire entendre, c'était dans des jacqueries, dans des conditions très difficiles. Puis est passé par là-dessus le siècle des Lumières et la Révolution française. Alors la souveraineté, elle appartient au peuple, c'est vrai, dans des moments historiques précis, rares. Dès la Révolution française, quand on examine les textes, y compris les textes constitutionnels français, on voit très bien que la souveraineté du peuple, on la maintient comme une formule incantatoire, mais en réalité, on parle de souveraineté nationale. Et la souveraineté nationale est la formule idéologique qui camoufle la souveraineté de l'État. Parce que l'État se sert de la nation comme d'un bouclier pour se justifier. Je représente la nation. La nation, avec toutes les ambiguïtés de ce mot que personnellement je n'aime pas, parce que la nation, qui pouvait être dans la pensée révolutionnaire justement le groupe de tous ceux qui sont là, c'est-à-dire une structure politique ouverte, la nation dans l'idéologie contemporaine est, vous le savez bien, devenue une structure politique fermée. Les nationaux et pas les autres. Et donc, cette notion de souveraineté nationale sert de paravent. Et derrière, quand nous regardons bien les institutions, comment ça fonctionne, la souveraineté, c'est quoi? C'est un pouvoir au-dessus duquel il n'y a rien. Et cette souveraineté, elle est aux mains de qui? Elle est aux mains de l'État. C'est-à-dire uniquement des dirigeants et des gouvernants. Et donc, on en est arrivé à ce point que les peuples sont gouvernés par les États au lieu de se gouverner à travers leurs États. C'est là-dessus que je veux travailler et réfléchir.
Cet État souverain, je pensais, ce que je n'avais pas prévu, mais au problème qui se pose avec la construction de l'Europe, ça conduit à une idéologie qu'on appelle le souverainisme. C'est elle, je crois, que vous dénoncez, notamment.
Oui, absolument, je dénonce le souverainisme parce que moi, je ne suis pas pour changer le destinataire de la souveraineté. Je suis pour supprimer la notion de souveraineté. Je pense qu'il n'y a plus rien à tirer de cette notion. Et je ne suis pas la seule. Vous savez, il y a un historien qui s'appelle Gérard Méret qui a fait, il y a déjà 15 ans, plus que ça, un petit livre très intéressant sur ce sujet, dans lequel il dit que la souveraineté est un concept inerte. C'est-à-dire que la souveraineté ne produit plus rien dans le champ politique. Nous sommes dans un désordre considérable parce qu'on a mélangé souveraineté et compétence. La souveraineté, comment elle se définit? C'est un pouvoir au-dessus duquel il n'y a rien. Mais juridiquement, les juristes ont donné pour définition, c'est l'exclusivité des compétences sur un territoire. Il n'y a plus un seul État au monde qui ait l'exclusivité des compétences sur son territoire. Cherchez bien, vous n'en trouverez pas. Demandez aux Américains qui détient leurs dettes. Ce sont les Chinois et les Japonais, mais surtout les Chinois. Donc c'est un exemple, mais il n'y a plus aucun État qui soit souverain. Les États font semblant d'être souverains. La souveraineté fonctionne encore sur ces versants que moi je considère comme négatifs, parce que je ne suis pas pour l'impunité des dirigeants et je ne suis pas pour que l'État ait entre ses mains la répression. Non pas que je fasse de l'angélisme, un État doit avoir un certain nombre de pouvoirs pour rétablir l'ordre lorsque ça peut être nécessaire, mais il faut que ça soit la clé d'autre chose qui est le politique, c'est-à-dire le débat démocratique dans le dissensus. Il n'y a pas de consensus, la démocratie c'est le dissensus. Débat démocratique dans le dissensus pour savoir qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et ça, on n'en est plus à cette formule-là du tout. Donc je pense qu'il faut passer par le débat critique sur la souveraineté pour rénover la discussion politique.
Comment sortir de cette situation? Comment la penser? Oui. D'où toute la réflexion que vous développez sur le droit qui est au cœur de changement.
Oui, et vous parliez de l'Europe parce que c'est un peu original de dire ça dans le moment de crise que vit l'Europe actuellement, que tout le monde considère comme moribonde, mal partie, en crise, etc. Mais je pense que l'Europe, dans son architecture institutionnelle telle qu'elle a été pensée après la Seconde Guerre mondiale, est le modèle de ce que nous pouvons projeter dans l'avenir, à certaines conditions bien sûr, pour rénover la vie politique. Parce que l'Europe s'est constituée comme un niveau de solidarité politique indispensable, c'est ça qui a quand même réduit les guerres, niveau indispensable, sans détruire les niveaux inférieurs, les États sont toujours là, comme communauté politique, et l'Europe a inventé comment faire du droit sans souveraineté. L'Europe n'a pas de souveraineté, or elle fabrique du droit. Et donc je pense que la projection dans l'avenir doit partir d'une réflexion dans laquelle on se débarrasse de la souveraineté, on la met vraiment à la poubelle, et on repense les communautés politiques dans un vrai projet démocratique. La démocratie, c'est, j'ai dit, le dissensus, et c'est un projet d'altérité renouvelée, comment se situer par rapport aux autres. Alors, il faut le faire à tous les niveaux et il faut repenser la répartition des compétences. D'ailleurs, on en parle un peu maintenant avec la réforme territoriale en France. Il faut qu'à chaque échelon territorial correspondent les compétences adaptées aux besoins et aux exigences des citoyens de cet échelon-là. Et il n'y a pas de différence à faire de ce point de vue entre l'échelon communal, l'échelon régional, l'échelon national, l'échelon continental, etc. Il faut simplement faire fonctionner la subsidiarité pour que les uns ne se mêlent pas de ce qui ne les regarde pas par rapport aux autres. Et là, il faut repenser la communauté politique jusqu'au principe de la communauté mondiale. C'est de ça que nous avons le plus besoin aujourd'hui, le principe d'altérité universelle, la considération de l'altérité universelle. Et le niveau mondial et le niveau d'urgence, parce que c'est là que pour le moment se situent les plus grands défis, c'est là que se profilent les plus grands dangers, les dangers en matière d'environnement, les dangers en matière militaire, sécurité, etc., les dangers en matière financière. Nous avons là les éléments de crise qui nous dépassent complètement, qui déboulent tout à coup avec une grande violence et tout le monde est éberlué et désemparé. Et c'est cet échelon-là qui n'est absolument pas occupé pour l'instant par le politique, l'échelon mondial. Nous n'avons pas le débat politique dans ce dissensus dont je parlais à propos des grands enjeux, mais avec l'exigence d'avancer vers des solutions. Et nous sommes devant un échelon inerte. Et ça me paraît très grave.
Et la prééminence du politique que vous appelez de vos voeux n'est pas là.
Non, elle n'est pas là du tout. Elle est captée par des États dans chaque région du monde qui a tué ce que pourtant la Boétie avait très bien compris quand il écrivait dans la servitude volontaire. Il y a le principe du politique, c'est le multiple. Nous sommes tous différents, nous émergeons dans la sphère politique et voilà, et c'est la cacophonie de nos opinions. Alors, il faut gérer cela. Et comment a-t-on géré ça avec l'État ? Par une réduction de ce multiple dans le 1 de l'État. L'État apparaît comme un 1 et on doit être tous derrière. Hein. Voilà, on est dans un État et on est obligé de vivre cette identité nationale comme étant l'identité principale. Et on a fait disparaître le multiple. Mais on n'a pas fait disparaître le multiple au profit du 1, c'est faux. On a fait disparaître le multiple au profit du nouveau rapport gouvernant-gouverné, qui est une nouvelle division du social, antagonique, les gouvernants imposant leur choix au gouverné, et les démocraties représentatives fonctionnant très peu en faveur de la volonté des gouvernés. Donc c'est là-dessus que je veux qu'on revienne, pour revivifier l'instance politique.
Préserver la multiplicité,
oui.
Ce serait aussi sauver l'unité.
Oui, enfin sauver l'unité, l'unité, elle est fugitive. Nous ne sommes unis que de manière éphémère. Mais restons dans ce qui est le vrai de la démocratie, c'est-à-dire le débat.
Certains ne manqueront pas de vous dire que tout cela est très bien, très beau, mais qu'on est en pleine utopie.
Oui.
Alors, j'arrive à l'utopie parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les rationalistes, puisque je dirais que leur rapport à l'utopie, à la pensée utopique, n'est pas toujours très clair ou
très
satisfaisante.
Facile, oui. Je sais, oui. Écoutez, moi j'assume parfaitement, on m'a souvent dit que tout ça était utopique, j'assume et je revendique. Je revendique pas... Alors, parce qu'il y a plusieurs sens au mot utopie. Je vous conseille vivement la lecture d'un petit livre de Miguel Abinsour qui est « L'utopie de Thomas More à Walter Benjamin ». Il explique très bien la place politique de l'utopie. Il dit même que l'utopie est un moyen de résister à la catastrophe. Vous savez que Benjamin lisait l'histoire comme la catastrophe. Et il parlait des sauts de tigre que peut faire le peuple pour tout d'un coup changer le cours de l'histoire, interrompre le cours de l'histoire lorsque le cours de l'histoire va à la catastrophe. Eh bien, Abinsour dit de l'utopie que c'est là que se réfugie, c'est en elle que se réfugie la résistance de l'humain. Alors, ce n'est pas l'utopie comme un autre lieu que l'on rêve et qui est impossible, on sait qu'il n'existe pas, voilà, on rêve tout d'un coup d'un autre lieu. C'est pas ça, l'utopie, telle que je la revendique à propos de mes analyses. L'utopie, c'est un nouveau rapport d'altérité, un rapport d'altérité universelle. Finalement, le lieu inconnu que nous cherchons, c'est l'autre. Et c'est ça qui est tellement méconnu actuellement. On veut ou que l'autre soit identique à soi, ou alors il est l'ennemi. Il n'y a pas de place pour un autre qui soit vraiment un autre, c'est-à-dire complètement différent, mais qui ne soit pas un ennemi, qu'on prenne en considération comme tel. Et alors voilà, si mon projet est utopique, dans ce sens-là, je le revendique totalement.
Je vous remercie, c'est une question qui nous a préoccupés quand on a parlé du progrès. Merci Monique Chemillet-Gendreau pour riche contribution à nos débats.
Je remercie Dany Journeau et Philippe Palares qui ont rendu possible cette émission. Je vous dis au mois prochain où nous recevrons Michel Leduc pour parler de l'intégrité en sciences.